je vois jamais revenir avec. Tu prends des droits parce qu'il attire les embrouilles. À chaque fois que ça part en couille, il assume que dalle.
À partir de 8h10,
c'est qu'il vient faire une machine ou qu'il a des trucs à mater sur le câble.
Radio France Internationale, il est 9h à Paris, 8h en temps universel. Fabrice Le Grier pour le journal Direction le Nord-Est syrien, dès le début de cette édition.
Reportage auprès des nombreux déplacés dans la région de Qamishli. La situation humanitaire y est désastreuse. L'accord entre les forces kurdes et Damas, qui doit entrer en vigueur demain, doit permettre à ces réfugiés de rentrer chez eux. Israël annonce la réouverture du point de passage de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza depuis quelques minutes. Réouverture dans des conditions drastiques, très limitées. Tandis qu'à Tel Aviv, des milliers de manifestants juifs et arabes se sont rassemblés hier soir pour dénoncer l'abandon sécuritaire de la minorité arabe en Israël. Témoignage à venir. Téhéran semble vouloir jouer l'apaisement. L'Iran nous parle, c'est ce qu'assure Donald Trump, le président américain qui évoque des négociations en cours. Et en Afrique du Sud, la fin d'une énorme escroquerie opérée depuis un prétendu centre d'appel. Une arnaque à plus de 50 millions d'euros. En Syrie, l'accord entre les forces kurdes et Damas, qui doit être mis en application à partir de demain lundi, comprend un volet humanitaire. Il doit ainsi permettre à terme aux réfugiés de rentrer chez eux. Ces familles ont fui les combats qui se sont enchaînés depuis la chute de Bachar el-Assad. Et il y aurait à présent plus de 100 000 déplacés internes dans la région de Qamishli, dans l'extrême nord-est syrien. Reportage Marie-Charlotte Roupy.
Regardez, on met un pantalon et un haut pour une personne.
À Qamishli, dans l'appartement étroit qui sert de quartier général aux associations de la société civile, Marah El-Aziz, bénévole, orchestre la répartition des dons de vêtements.
Nous avons reçu un très grand nombre de personnes qui ont été soudainement déplacées et qui n'ont rien avec elles. La difficulté, c'est que nous avons énormément de demandes.
Avec plus de 100 000 personnes déplacées dans la région, les vêtements, produits d'hygiène et nourriture manquent partout. Les équipes de bénévoles livrent donc au pas de course leur colis d'aide humanitaire attendu parfois depuis 10 jours. Originaire d'Afrin, une femme s'effondre en larmes. Elle vit avec ses enfants dans un bâtiment insalubre du régime Assad.
Ce n'est qu'une seule pièce. C'est le salon, la cuisine. Une seule pièce pour 14 personnes.
Hamid Abdi, coordinateur terrain du conglomérat d'associations.
C'est vraiment le bazar. 4 familles vivent dans la même pièce. Aujourd'hui, nous aidons 100 familles avec nos ressources limitées.
Le nouvel accord entre les forces kurdes et Damas prévoit le retour volontaire des déplacés chez eux, mais comme cette femme qui préfère rester anonyme, beaucoup n'y croient pas encore.
Nous ne rentrerons qu'avec des garanties d'être en sécurité et pas d'être torturés, dépouillés.
En attendant, ces réfugiés épuisés doivent se serrer dans les abris limités de la ville. Marie-Charlotte Roupy, Qamishli, RFI.
Israël l'annonce, le passage de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza a rouvert il y a quelques minutes. C'est le seul point d'entrée et de sortie de l'enclave ne passant pas par Israël, pratiquement fermé depuis mai 2024. Le passage n'est autorisé qu'aux piétons, avec un flux limité à environ 150 personnes par jour. Chaque voyageur doit être muni d'une autorisation sécuritaire préalable. Côté Gaza, ce sont des agents de l'autorité palestinienne qui gèrent les opérations, sous l'œil des observateurs de l'Union européenne. Israël conserve un droit de regard absolu sur la sécurité. Une réouverture qui intervient dans un climat de très forte tension. D'après la défense civile de Gaza, 32 personnes ont été tuées hier dans des frappes israéliennes. Israël qui déclare avoir riposté à des violations du cessez-le-feu. Par ailleurs, des milliers de manifestants juifs et arabes se sont rassemblés hier soir à Tel Aviv. Ils entendaient dénoncer l'abandon sécuritaire de la minorité arabe en Israël. L'année 2025 s'est achevée sur un bilan tragique et record de 252 assassinats. Et le début de cette année 2026 est déjà marqué par un sanglant décompte, avec au moins 27 meurtres recensés pour le mois de janvier. Face à ce qu'ils appellent l'anarchie d'État, les citoyens exigent des actes. Reportage de Michel Paul à Tel Aviv.
C'est une démonstration de force qui a déferlé entre le musée de Tel Aviv et la place du théâtre Abima. La marche des drapeaux noirs n'était pas seulement une protestation politique, mais une déclaration civique dans la foule des familles endeuillées qui portent les portraits de proches fauchés par le crime organisé. Parmi elles, Diana, une mère de famille originaire de la ville de Tira, témoigne de ce quotidien sous tension.
On n'en peut plus de la violence, c'est devenu du terrorisme. Nous vivons dans la peur. Nous voulons simplement vivre tranquillement, en paix, dans la sérénité, avoir la sécurité pour nos enfants. pour l'avenir de nos enfants.
Cette colère cible directement l'exécutif. Les manifestants fustigent l'inaction d'un gouvernement qu'ils accusent de mépris envers la sécurité de 20% de la population israélienne. Des discours sans concession, à l'image du député démocrate Gilad Kariv, qui pointe du doigt le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir.
Celui qui permet à Ben-Gvir, le raciste et le fasciste, d'être le ministre responsable de la sécurité nationale, ne se soucie pas de la vie des citoyens. Tout premier ministre qui conclut une alliance avec Itamar Ben-Gvir est un premier ministre illégitime, qui doit être démis de ses fonctions.
Un rassemblement qui marque un tournant dans une année électorale, une lutte pour la vie qui dépasse toutes les divisions politiques. Michel Paul, Tel Aviv, RFI.
L'Iran nous parle. Les mots de Donald Trump ajoutant, je cite, ils sont en train de négocier. Face à la pression américaine, Téhéran a multiplié les signes d'apaisement ces dernières heures. Les tractations diplomatiques se sont accélérées hier. Le président Massoud Pezeshkian a appelé son homologue égyptien, lui affirmant que son pays ne cherchait pas la guerre. L'Égypte, qui fait partie des pays qui tentent de jouer les médiateurs, tout comme le Qatar, dont le premier ministre et chef de la diplomatie a fait une brève visite à Téhéran pour tenter de calmer la situation. Ali Larijani, à la tête de la plus haute instance de sécurité en Iran, a lui aussi évoqué des progrès en vue de négociations avec Washington. Lui qui avait par ailleurs annoncé que les armées des pays de l'Union européenne étaient désormais considérées comme des terroristes. Une décision confirmée par le Parlement iranien ce matin. Réponse au placement des gardiens de la révolution sur la liste des organisations classées comme terroristes par les Européens. Volodymyr Zelensky affirme que des rencontres diplomatiques seront organisées la semaine prochaine, avec pour objectif de faire avancer les discussions avec Moscou. Une possible rencontre entre délégations russes et ukrainiennes était déjà prévue aujourd'hui à Abu Dhabi. On ne sait pas si elles vont se tenir ou non. Kiev semble plutôt miser sur ce rendez-vous annoncé dans les prochains jours, tandis que l'émissaire américain Steve Witkoff s'est entretenu avec son homologue russe Kirill Dmitriev hier en Floride. Discussion qualifiée de constructive. En attendant, une frappe de drone russe a visé la ville de Dnipro dans l'est de l'Ukraine. Dans la nuit, 2 personnes ont été tuées. La plus grande escroquerie du genre en Afrique du Sud. Voilà ce que l'on pouvait lire cette semaine dans la presse locale. À Johannesburg, un supposé faux centre d'appel a été perquisitionné par la police sud-africaine ces derniers jours, centre depuis lequel un réseau criminel aurait opéré et ainsi arnaqué des investisseurs du monde entier. Montant estimé de l'escroquerie, plus de 50 millions d'euros. 29 personnes seront jugées la semaine prochaine. Valentin Hugues.
En Australie, au Royaume-Uni ou encore aux États-Unis, déjà 43 victimes ont pu être identifiées par la police sud-africaine, appuyées par Interpol. Selon le porte-parole des Hawks, l'unité d'élite de la police sud-africaine, ce réseau criminel changeait régulièrement de QG, raison pour laquelle cette perquisition intervient plus de 2 ans après le début d'une vaste enquête. C'est donc cette semaine qu'un centre d'appel au nord de Johannesburg est finalement perquisitionné. Selon les salariés d'entreprises voisines, le train de vie des employés de ce centre d'appel était pour le moins intrigant, avec de nombreuses voitures de luxe garées sur le parking. On sait désormais que l'escroquerie avoisinerait le milliard de rand sud-africain, plus de 50 millions d'euros. Les criminels auraient contacté de nombreux investisseurs débutants pour leur proposer de petits investissements d'abord, puis les auraient incités à placer de plus grosses sommes d'argent en promettant des rendements spectaculaires. Les suspects sont déjà passés par la case tribunal ce mercredi, mais l'État a choisi de repousser l'audience à la semaine prochaine pour avoir le temps d'analyser les différentes preuves. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
L'inquiétude au Portugal, où de nouvelles pluies abondantes sont attendues dans la journée. Le pays est en alerte météo jusqu'à demain, quelques jours seulement après le passage de la tempête Christine qui a fait 8 morts. 200 000 personnes sont toujours privées de courant. Du tennis pour terminer avec la finale de l'Open d'Australie qui oppose ce matin Carlos Alcaraz à Novak Djokovic. Un choc de génération et un duel pour l'histoire entre le jeune espagnol et le doyen serbe Erik Mamrut.
16 années les séparent, mais tous les deux peuvent entrer encore un peu plus dans le livre des records aujourd'hui. En gagnant sa première finale de l'Open d'Australie, Carlos Alcaraz deviendrait à seulement 22 ans le plus jeune joueur vainqueur des 4 levées du Grand Chelem. L'Espagnol a déjà remporté, et à 2 reprises, Roland Garros, Wimbledon et l'US Open, pour un total de 6 titres majeurs. Novak Djokovic convoite quant à lui son 25e. Un nouveau triomphe l'enverrait seul sur le toit du monde, juste devant l'Australienne Margaret Court et ses 24 trophées en Grand Chelem. Le Serbe, que l'on pensait définitivement relégué au second plan, a prouvé vendredi qu'il ne fallait pas l'enterrer trop vite, malgré ses 38 ans bien tassés. Mais après avoir battu Yannick Sinner en demi-finale, pourra-t-il vaincre un nouvel Everest en dominant dans la foulée le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz? Ses 4h12 de jeu contre l'Italien pèseront forcément dans la bataille, de même que les 5h27 passés sur le court par l'Espagnol pour vaincre dans le même temps Alexander Zverev et les crampes dont il a été victime vendredi. Un Carlos Alcaraz vainqueur facile de son dernier duel finale face aux Serbes, c'était en septembre à l'US Open. Reste qu'à Melbourne, Novak Djokovic est le maître. Il y a disputé 10 finales pour 10 victoires.
Voilà, Carlos Alcaraz face à Novak Djokovic. C'est donc l'affiche de la finale de l'Open d'Australie. Les deux joueurs qui entreront sur le court d'ici 30 minutes maintenant à Melbourne. C'est la fin de ce journal sur la Radio du Mandat.
Vous avez une idée innovante pour un monde plus propre ?
Écoute, je vais te dire un truc, Jérôme. Il y a une expression américaine en anglais qui dit « Rock and roll is dead ». Ce qui veut dire « Le rock and roll est mort ». Mais c'est pas vrai. Le rock and roll n'est pas mort pour ceux qui sont rock et qui sont pas morts. Tu comprends ?
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif. À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.
Thank you.
Principe actif.
Aujourd'hui, on parle trop souvent de son tracteur au paysan, de ses voitures au garagiste ou de ses machines à l'ingénieur. Pour lutter contre cette routine, il est inutile de rechercher l'aventure dans l'exotisme du bout du monde. Il suffit simplement d'une conversation insolite où l'on oublie la spécialité de chacun, l'étiquette du métier, pour retrouver l'homme avec ses rêves, ses aspirations et ses préférences.
Actif par principe.
soit tous enchaînés dehors, tout ce que l'époque propose. J'entends les darons crier par la fenêtre de rentrer, mais je sors. C'est à cet âge-là que je disparais des albums photos. Je pense qu'aux façons de quitter la planète et transgresser le code, on a vérifié tous les calculs, ficelé tous les sacs, les visages figés par le blizzard, déterminés sous les capuches. Je marche vers le sommet, puisqu'un tour d'avance se rattrape. J'ai fait le crash test, je connais ce qu'il en coûte d'attendre que ça passe. Hein. Je préfère de loin le danger à mon coin retranché ici. Rien n'a le moindre sens, moi j'ai besoin de changer de cadre, de grands espaces et de verdure, de planquer le sache et de zèbre, le temps de faire passer de l'air pur.
Au pied de la montagne, les efforts à fournir sont insurmontables, mais j'avance. 5 ans de rap, 20 ans de vacances partielles, mes faces viennent des bas-fonds et n'est-ce qu'un tas de cendres. Mon gars est glace en laisse de marbre et passant, allez passons. Le risque reste de ne pas avoir les outils nécessaires, je passe au-dessus. Je charge mon sac sans oublier mes frères. L'ascension risque d'être longue, mes proches me le répètent, mais qu'importe, sous un ciel délétère, pas de costume ni de coke. Juste une bête de peau sur des envols qui me fera changer de mode de vie. En attendant, j'enchaîne les shots de jean en Perse, cherchant les denges braille dans cette immense plaine pour ne pas troquer les Edelweiss contre des chrysanthèmes.
La pente est raide, mais tu roules dans le droit chemin. Je regrette que mon rêve le plus fou n'en soit qu'un. On reste en retrait, on dort. Nos souvenirs se décomposent en plusieurs couches. S'il existait un remède, on le saurait. J'ai creusé mon pote, je pense pas que j'apercevrais les cieux. Je compte pas non plus passer mon temps à chercher Dieu ou juste un peu de réconfort. Ma mère me fait les yeux, d'où bien qu'elle n'ait que les siens pour pleurer mon sort. Constater ma haine, me voir manquer ces vieux jours. Deviendrais-je insensible? Ferais-je partie des gens qui se jettent dans le vide pour se sentir vivant? Des fois, je voudrais qu'on me comprenne en dealant pour plaider ma cause. Moi, on voudrait pas passer pour des démagos, alors on cède en silence. La route est longue, je me dis que c'est quitte au double. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. La route est longue, je me dis que c'est quitte au double. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix.
C'est qui tout double, on n'a pas le choix. La vie donne quelques indices, être solide, invincible, pas céder comme une brindille. Parfois on veut scintiller parce qu'on s'inflige. À toi de voir sur la carte voie si tu veux parier, car en principe la réussite c'est qui tout double. On va jusqu'à flirter avec le code pénal. Gros c'est mal, je l'ai dit sous toutes ses formes. C'est fou, le décor a changé depuis le top départ. Il reste beaucoup de méthodes à ranger. Des prendre à trancher, faudra plancher. Sur la face on a rangé les choses, pas plan B c'est mort. Je vais pas lancer des modes, c'est trop tard. J'ai tant fait d'efforts, accusé coup de l'ivresse. C'est tout ce qui reste à toute vitesse. Pour mes troubles, la perte est totale, hein. La question c'est la même depuis 25 ans déjà. Mes printemps je les passe à gratter ou rapper des textes. Un train s'en est allé, j'ai jamais voulu le suivre. Maintenant que j'ai parlé de ces années, c'est parfait pour une suite.